Bonjour, vous écoutez le podcast en français d'Investigate Europe. Je suis Anne-Laure Pinault, aujourd'hui je suis derrière le micro, mais d'ordinaire je traduis les enquêtes en français pour cette coopérative de journalisme cross-border que vous connaissez bien. Cette histoire est peut-être celle qui m'a le plus marquée dans la liste des enquêtes au long cours menées par Investigate Europe. Elle montre que nos institutions n'arrivent pas à faire barrage aux multinationales qui font du profit sur le dos des plus faibles. Les États membres de l'Union européenne tournent le dos à leurs personnes âgées. Un peu partout en Europe, la privatisation du secteur des EHPAD a conduit à une situation désastreuse pour les patients, leurs familles et le personnel en surchauffe. Alors que la capacité d'accueil a augmenté de 22% en 4 ans, les réductions de personnel sont pléthoriques et le résultat s'est vu avec la crise du Covid. Les structures privées ont été encore plus touchées par les infections que le public. Dans les couloirs des EHPAD privés, gérés pour faire du profit, maltraitance, malnutrition, morts prématurées sont attribuées à des brebis galeuses, en réalité un personnel à bout de force. Pendant ce temps-là, les compagnies amassent 220 milliards d'euros de subventions publiques chaque année, 10 milliards de moins que le PIB du Portugal. Et pour certaines, maquillent une partie de leurs bénéfices dans des montages financiers alambiqués et des paradis fiscaux. Les plus gros acteurs du secteur des EHPAD privés en Europe sont français et s'appellent Orpea, Korian, Domus Vie, Colisée. Et croyez-moi, il n'y a pas de quoi en être fier. Aujourd'hui, je tends le micro à Leila Mignano, qui a travaillé sur la partie française de cette enquête. Coucou Leila, comment ça va ?
Bonjour Anne-Laure, ça va très bien.
Cette enquête a été éprouvante pour l'équipe, vous avez recueilli des témoignages difficiles en Grèce, en Angleterre, en France, en Espagne, qu'ils viennent des familles de résidents ou du personnel. Est-ce que ça vous a pas donné encore plus envie de fouiller ce qui se cache derrière les publicités mirobolantes des maisons de retraite privées ?
Complètement. C'est un sujet sans fin qui nécessite d'être encore et encore enquêté chez les journalistes, puisqu'effectivement il y a eu quelques enquêtes qui ont fait date sur la maltraitance dans les EHPAD en France, mais très peu au final sur les grands groupes privés, qui sont d'ailleurs, comme tu le disais justement, tous français, et qui ont créé un véritable business financé par l'État français, donc l'assurance maladie, les conseils départementaux, et qui sont clairement là pour faire du business et pas pour faire de l'humanitaire et de la prise en charge. Et donc du coup, on s'est intéressé à cette question, mais effectivement, il y a de la place pour beaucoup plus long, encore plus d'enquêtes sur le sujet.
Vous encouragez tous vos collègues à prendre la suite.
Complètement. Et encore plus dans cette période de Covid, où on a pu voir l'hécatombe généralisée qu'on a pu voir dans la première, deuxième et troisième vague dans les EHPAD.
Est-ce qu'après avoir tant travaillé sur ce sujet, vous pouvez affirmer que l'Union européenne et les États membres ont tourné le dos aux personnes âgées ?
Ah, complètement. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur qui est entièrement sous-financé, avec un personnel qui est complètement à bout de force, puisque exploité, sous-payé. En France, par exemple, c'était une des surprises de cette enquête, hein. Le plus grand nombre d'accidents du travail en France ont lieu dans le secteur des EHPAD, plus que dans le BTP, par exemple.
C'est fou.
Donc du coup, on en est là. Enfin, pour ce qui est aide-soignante, par exemple, auxiliaire de vie, on a des salaires vraiment qui sont à peine au-dessus du SMIC. Heureusement, elles ont l'ancienneté ou les primes de précarité pour celles qui sont en CDD, etc. Mais on est dans des conditions de travail extrêmement difficiles, un milieu très féminin. Plus de 80% des salariés des EHPAD sont des femmes et qui, par ailleurs, doivent porter des malades qui ne peuvent pas se déplacer pour certains. Et donc, du coup, c'est ça qui provoque des accidents du travail à répétition.
Et on le lit dans vos enquêtes, dans certains établissements, les résidents et résidentes ne mangent pas à leur faim. On fait des économies sur les gants de toilette, les couches et surtout sur le personnel. Pourquoi il n'y a pas de système de régulation ou de contrôle qui fonctionne ?
Ah, ça, c'est une très bonne question et c'est la question qu'on a cessé de poser à l'État français, mais pas seulement, à l'État allemand, norvégien, un peu partout. C'est-à-dire qu'il faudrait contrôler ces établissements. Mais aujourd'hui, quand on discute avec les inspecteurs des ARS, donc des agences régionales de santé, ils nous disent qu'on n'a même pas les moyens de faire les contrôles basiques. Ce qu'on révèle dans notre enquête, c'est que depuis le début de la gouvernance Macron, il y a moins 40% de contrôle dans les EHPAD aujourd'hui.
Depuis 2017, donc.
C'est exactement. Depuis 2017, on est à moins 40% de contrôle. Sachant que déjà, on était dans un domaine qui souffrait des différentes restrictions de personnel. Là, on est à un niveau extrême. Pendant la période de Covid, les ARS étaient tellement en situation de flux tendu que les contrôles étaient encore plus bas. Donc effectivement, ils n'ont pas du tout les moyens de contrôler si les deniers publics sont bien dépensés, si les résidents et résidentes sont bien traités. Et donc, ça, c'est effectivement quelque chose qui prouve encore que l'Union européenne et les États membres ont tourné le dos à leurs anciens.
Ça semble effarant et on dirait presque que c'est un blanc-seing un peu pour le secteur privé de faire absolument ce qu'ils ont envie de faire. D'ailleurs, l'enquête s'appelle Grey Gold en anglais. Est-ce à dire que les gros investisseurs financiers choisissent d'investir sur les personnes âgées comme on le ferait sur le pétrole ou l'immobilier ?
Complètement, c'est un investissement d'avenir puisque d'ici 30 ans, il devrait y avoir 38 millions de personnes qui vont faire des demandes pour être intégrés en Europe dans l'Union européenne. Potentiellement 50 millions dans 50 ans, c'est énorme. C'est un marché qui va être en pleine croissance. Et donc, du coup, ce sont des investisseurs qui investissent sur, comme vous dites, l'or gris, comme on dirait l'or noir ou pour le pétrole.
Ouais, c'est absolument flippant. Et pareil, là, il n'y a aucun contrôle, rien qui se mette entre cette pratique financière, parfois même un petit peu douteuse, et la protection des personnes.
Complètement. Et ça, c'est quand même fou. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on n'a pas de quota par nombre de résidents. Ce qui devrait être basique, c'est-à-dire on est en EHPAD, on a un certain nombre de résidents, on doit avoir un certain nombre d'infirmières, un certain nombre d'aides-soignantes, etc. Et bien en France, ça n'existe pas. Donc du coup, on finance largement ce secteur, parce que qu'on soit privé, ou public ou associatif, en France, on touche exactement le même argent. Donc du coup, le privé est financé de même manière que le public. Mais par contre, il ne bénéficie de aucun contrôle. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait demain prouver que tel groupe a envoyé de l'argent public français dans un paradis fiscal, qui serait pas une grande surprise. Et ben, ce serait pas finalement pas une surprise, puisque effectivement, il y a personne pour contrôler comment les deniers publics sont vraiment dépensés.
Vous avez démontré que certains groupes avaient construit de véritables montages financiers pour cacher leurs profits. Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?
Alors, on a travaillé notamment avec le partenaire sur le groupe Domusvie, avec le partenaire InfoLibré, qui avait déjà mené une grosse enquête sur le sujet. Par ailleurs, il y avait eu quelques autres enquêtes qui étaient parues sur ce groupe, qui montraient effectivement qu'il y avait un certain nombre de processus d'optimisation fiscale qui étaient mis en place. Et donc, du coup, on a effectivement nous-mêmes apporté notre pierre à l'édifice et progressivement, on se rend bien compte qu'effectivement, ces groupes ne sont pas là seulement pour prendre en charge les personnes, quoi, mais aussi pour dégager clairement des bénéfices.
Et on l'a dit un peu dans la présentation, la majorité des grands acteurs du secteur sont français. Et on l'a vu avec le Covid, par exemple, des grèves du personnel ont touché le groupe Korian. Est-ce qu'on n'arrive pas à la limite de ce modèle financier et de ce modèle social aussi? Et est-ce que la France pourrait arriver aussi à renationaliser le secteur comme l'a fait la Norvège?
Exactement, c'est un des exemples qu'on cite dans notre série d'enquêtes. C'est que la Norvège, en fait, après un véritable constat d'échec de la privatisation de ses maisons de retraite, a décidé de remunicipaliser. Et effectivement, les résultats sont là, très vite, que ce soit en termes de prise en charge par le personnel ou de qualité de vie des résidents. Donc ce qui était intéressant dans l'exemple de la Norvège, c'est qu'on se rend compte que cette privatisation de plus en plus importante en Europe, enfin, typique comme l'Espagne, où là ils sont à 80%, ou à l'Autriche, ils sont à 49%, en Allemagne 43%, enfin, tous ces chiffres-là, en fait, sont potentiellement réversibles, en fait. Et en France aussi, on peut revenir sur ça. Et y compris, je pense que ce sera potentiellement plus rentable pour l'État français de revenir là-dessus.
Bien sûr.
Qu'il finance que tout cet argent-là qui part chez Korian, Orpea, Domusvie, aille faire le public, etc. Pour le bien-être, en tout cas c'est ce qu'a montré la Norvège, c'est potentiellement une avancée pour la prise en charge de nos anciens. Et donc du coup, voilà, c'est un peu la touche d'espoir qu'on a dans cette enquête, puisque effectivement on parle de la situation en France, mais on parle de la situation terrible aussi en Grèce. On a eu plusieurs affaires sordides où les personnes âgées ont été retrouvées déshydratées, attachées à leur lit.
Voire décédées,
exactement, à qui on avait vraiment donné des excuses, des fausses informations à la famille sur les raisons du décès, etc. Du coup, on est dans des situations extrêmes en Grèce, mais où on parle également de l'Angleterre. l'Angleterre, où effectivement, c'est les fonds de pension qui ont racheté massivement les maisons de retraite. Et c'était une extrêmement mauvaise nouvelle pour les personnes âgées et leurs familles. Et on a cette petite note d'espoir de la Norvège qui a réussi à tirer les conclusions de l'échec de la privatisation pour revenir en arrière. Après, c'est sûr, la Norvège, on est dans un plus petit pays, mais c'est possible. Et donc, du coup, voyons si, à l'issue de la pandémie mondiale et de l'hécatombe, l'État français sait tirer les conclusions.
Et bah, toutes les enquêtes sont à lire sur le site Investigate Europe, en français ou en anglais, si vous avez envie de lire en anglais, ou en italien, ou en allemand. Mais tu vas bientôt sortir une nouvelle enquête qui concerne particulièrement le groupe Orpea. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, complètement. Donc, c'est une enquête donc, qui va sortir sur notre site également. Chez notre partenaire français Mediapart, donc du coup qui va, je peux pas encore tout dire, mais qui révèle une fraude potentiellement généralisée au droit du travail fait par ce groupe, qui est un groupe français et qui est le premier groupe d'EHPAD au monde. Et donc du coup, encore une fois, un groupe hautement financé par l'État français, puisqu'on révèle dans cette enquête qu'il a reçu en 2020 330 millions d'euros au bas mot de la part de l'État français.
Donc toutes les enquêtes sont évidemment à lire sur le site. On vous encourage aussi à vous abonner au podcast sur toutes les applications de podcast. Et on se retrouve bientôt donc, pour une prochaine enquête. Au revoir.
Au revoir.